Libre comme l'air. Eldorado de Laurent Godet raconte un voyage, ou plutôt deux. Celui de Salvatore Piracci commence à Lampedusa, en Sicile, où il commande un navire chargé d'intercepter les immigrés clandestins. 20 ans à la besogne l'ont usé. La vie s'est faite toujours plus solitaire et un beau jour il part. Cap sur l'Afrique, dans une barque de pêcheurs. Il part à l'aventure, laissant tout derrière lui. Le voyage de Soleiman, l'autre personnage principal du livre, commence lui au Soudan. C'est là qu'avec son frère, il se décide au grand départ. Contrairement à Salvatore, ils sont jeunes, ils n'ont rien en poche, et peu leur importe de mourir, pourvu qu'ils atteignent l'Europe. Deux voyages, deux Eldorado, et la même envie de mettre quelque chose là où il n'y a rien. Eldorado est une histoire d'envie. De l'envie qu'on a parfois que la vie soit autre. De l'envie d'aller voir derrière la ligne d'horizon. C'est pour rester en vie que Salvatore et Soleiman se mettent en route des deux côtés de la Méditerranée. Alors c'est sûr, le lecteur est vite assis entre deux chaises dans cet Eldorado. On lui demande d'être à la fois le gendarme et le voleur, et aucun des deux ne sait où il va. Laurent Godet a réussi son pari, très loin du noir et blanc. Eldorado est un livre en couleur, qui nous dérange dans nos habitudes de lire les vies humaines sous forme de bilan comptable. Choisir d'y entrer, c'est accepter de se mettre en route, de devenir à notre tour Salvatore et Soleiman, et de partir. Comme dans tous les voyages, nul ne peut dire où l'on arrivera, combien de fois on se sera perdu en route, ni qui l'on sera alors. Dans les voyages, comme dans le livre de Laurent Godet, ce sont les regards qui disent le chemin à suivre. Ce sont eux qui font partir, eux qui donnent l'envie, eux qui aident à se relever. Alors faites votre sac, ouvrez grand vos yeux et faites un bon voyage.
Dans la trajectoire de Soleiman, je sais que ce qui me fascine, c'est cette force du désir. C'est-à-dire que quelles que soient les épreuves, et elles sont nombreuses, je suis très impressionné, moi, par la volonté qu'il faut pour maintenir le désir de voyage, pour continuer à avancer. Donc voilà, j'avais envie de m'accrocher à ça. Du côté de Salvatore Piracci, c'est presque le contraire. C'est qu'il y a probablement en moi aussi une tentation de la dépossession, la tentation de simplement se laisser remplir par le monde et ne plus tout à fait en faire partie. C'est-à-dire être plus dans la contemplation, dans le silence que dans l'action. Il y a la confrontation entre un Eldorado qui, d'une certaine manière, du côté de Soleiman, est extrêmement défini, même si c'est un mythe. Pour lui, l'Europe, c'est l'Eldorado, et cet Eldorado-là est du côté de la prospérité. Et c'est bien pourquoi il veut faire le voyage, c'est-à-dire essayer d'avoir une vie meilleure. Autant de choses qui sont extrêmement nobles, mais je veux dire, on est du côté du meilleur, même s'il est fantasmé. Alors qu'effectivement, l'Eldorado de Salvatore Piracci, ce qui est bizarre, c'est qu'il est moins défini, et je pense que c'est une caractéristique de nos rêves à nous, d'Européens repus, si je puis dire, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de rêver à un ailleurs, et en même temps, cet ailleurs-là, on sait qu'il n'est pas forcément du côté de la prospérité ou du mieux vivre, puisqu'a priori, ça se passe plutôt pas mal chez nous. C'est plus un ailleurs indéfini, un peu plus philosophique peut-être, essayer de trouver quelque chose. Je voulais que ce mot-là soit le titre, tout simplement parce que je pense que ce rapport-là à l'Eldorado, on l'a tous, de manière alors tout à fait microscopique dans nos vies, et fort heureusement. Caresser le rêve comme ça, un soir où on est un peu dans le vacarme, de changer de vie professionnelle ou amoureuse ou géographiquement, se dire... Qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait tel choix plutôt que tel autre, si j'avais jamais rencontré cette personne-là, mais si j'en avais rencontré une autre? Qu'est-ce qui se passerait demain si je décidais de tout arrêter et de partir sur une autre direction? Ces questions-là, elles sont en nous, je pense. La plupart du temps, on passe pas à l'acte, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais on peut pas s'empêcher d'y rêver, je pense que ça fait du bien. Salvatore Piracci, il est là-dedans, il a eu une vie pendant 20 ans qui était très définie, qui avait un métier, qui avait une réalité géographique, et puis il en peut plus de cette vie-là, et il décide. Autre chose, mais autre chose, c'est très flou. Alors voilà, il part en Afrique et puis... Mais il est dans ce désir d'ailleurs quand même. C'est vrai que la trajectoire de Piracci, elle est plutôt du côté du désespoir. Je voulais justement pas que ce voyage en Afrique soit sur le mode d'une sorte de réconciliation entre les peuples, de quelqu'un qui vient et qui embrasse comme ça la souffrance du continent noir, tout simplement parce que c'est terrible à dire, mais je n'y crois pas. C'est-à-dire, je crois que le fossé nord-sud est tel que cette chose-là n'est... Je ne dis pas qu'elle n'est pas possible, mais je pense qu'elle est devenue très compliquée et que c'est pas un homme, quand bien même il aurait de très bonnes intentions, qui peut comme ça régler les choses. Donc je voulais que lui, il soit confronté aussi une fois en Afrique à son d'abord à son inutilité et ensuite à son désespoir. Mais je pense que d'un point de vue intérieur au personnage, on peut quand même voir cette trajectoire comme une forme d'avancer vers un apaisement. Je pense que Salvatore Pirati est plus lui-même à la fin du livre qu'au début, et qu'en ce sens, le livre n'est pas une tragédie, c'est plutôt une sorte de réconciliation avec lui-même, dans l'ombre, mais une réconciliation quand même. Je repensais à ces hommes et ces femmes qui tentent le voyage comme ça et qui essayent de passer, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et je me suis dit, finalement, il y a deux manières de réussir ou deux manières d'échouer. Le premier plan est concret et simple. Ces gens-là se sont donné un but géographique et on peut simplement peser leur réussite ou leur échec en fonction de ça. Est-ce qu'ils ont réussi à passer ou est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Là où ça se complique un petit peu, c'est qu'on peut très bien imaginer qu'un homme ait réussi d'un point de vue géographique son voyage, mais il se rend compte une fois arrivé que ça a été au prix d'une perte de soi, d'une dénaturation, de quelque chose de trop dur. Il a dû faire des choses, il a dû voir des choses, il a dû subir des choses qui finalement font qu'à l'arrivée, il n'est plus lui-même, ou il est trop loin de lui-même, ou il est trop brisé. Alors ça commence à m'intéresser. C'est-à-dire que là, je me dis qu'il y a pour ces gens-là une double attention à avoir, une attention nerveuse et volontaire sur arriver à leur but, et puis une autre, plus philosophique, plus difficile à palper, y arriver tout en restant soi-même. Je suis assez triste de l'état actuel de ce monde-là. Je pense que le fossé nord-sud se creuse, alors qu'on aurait les moyens au contraire, de jeter des tas de ponts. Je constate avec un peu de tristesse, effectivement, qu'il y a la mise en place de deux fantasmes qui se font face et que ce dialogue-là n'est pas possible. C'est-à-dire que si on crée des fantasmes, on n'y arrivera pas. Du côté du continent africain, on a le fantasme de l'Eldorado, en se disant qu'en Europe, c'est merveilleux, ce qui est une construction imaginaire. C'est certainement mieux sur beaucoup de points, mais c'est gommé aussi un certain nombre de difficultés qui sont réelles. Et puis du côté occidental, on a la création du fantasme de la citadelle qui me semble être une aberration totale, c'est-à-dire de se dire comme ça, caresser le rêve qu'on puisse, par la simple volonté politique ou autre, construire un mur, fermer les frontières, fermer les portes et laisser les gens à l'extérieur. C'est réfléchir aussi d'une manière, petite et ponctuelle. Dans ces immigrés, il y a quoi? Il y a du désir d'abord, énormément de désir. Donc il y a de la beauté, il y a du courage, il y a de l'obstination, il y a de la volonté. Ça, c'est quand même admirable. Ça ne règle pas le problème politiquement parlant, mais moi, c'est pas mon problème, si je puis me dire. Je suis pas un homme politique, je suis un romancier. Et donc j'ai envie aussi d'utiliser mon outil de roman pour simplement changer ça, à dire dans le regard de ces hommes-là, il y a une chose extrêmement précieuse qui est la volonté. Le désir de s'emparer de sa propre vie, de faire des choix et de se battre. La mer dans Eldorado, c'est aussi l'occasion de faire rentrer quelque chose qui dépasse complètement les hommes, qui va décider parfois de leur destinée, mais sans leur demander du tout leur avis. C'est-à-dire que les émigrés qui font la traversée de la Méditerranée, ils remettent leur vie dans les mains de la mer. C'est-à-dire que si elles décident ce jour-là d'être calmes, ils passeront. Si elles décident ce jour-là de se fâcher, ils couleront. Et donc oui, j'aime bien ça. J'aime bien quand l'homme accepte de se confronter et d'accepter son côté microscopique. On est tout petit, on n'est vraiment pas grand-chose. Au milieu de la mer, tout d'un coup, là, il y a peut-être la réduction à notre juste dimension, c'est-à-dire quelque chose de très minime et en même temps d'infiniment précieux. Terra mia, terra mia.